Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Les jeunes Italiens invités par le pape à s'engager en politique. Le pape François recevait en visite officielle le président italien Giorgio Napolitano, l'occasion aussi pour le Saint-Père de rappeler l'importance de la liberté religieuse. Durcissement du droit d'asile en Suisse, les électeurs sont appelés à se prononcer lors d'une votation dimanche. Les églises chrétiennes appellent à voter non et réaffirment leurs valeurs en matière d'asile et d'immigration. Le livre pour Dieu, il s'agit cette semaine de premier pas d'un apprenti chrétien. Catherine Aubin en parle avec son auteur Thierry Bizot. Et comme tous les week-ends, nous vous proposons le commentaire de l'évangile de ce dimanche avec le père Pascal Montavi. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. C'est presque en habitué que le président italien s'est rendu ce samedi matin au Vatican pour y rencontrer le pape François. Giorgio Napolitano connaît bien en effet les lieux puisqu'il s'y est rendu à de nombreuses reprises pour rencontrer Benoît XVI lors de son premier septennat. La dernière fois d'ailleurs, c'était en février pour dire au revoir au pape émérite. Pas de surprise cependant lors de ce premier contact officiel entre les deux Georges. Le pape François, dans son discours, a rappelé les bons rapports qu'ont entretenus pendant 7 ans le président Napolitano et Benoît XVI, mais aussi et surtout les liens forts qui unissent l'Italie au Saint-Siège. Les précisions de Thomas Chabol.
Dans un contexte de crise et de menace sur la liberté religieuse, l'Italie peut être un exemple dans la communauté des peuples. Le pape François, au-delà du traditionnel rappel des liens spéciaux qu'entretiennent le Saint-Siège et la République italienne, a souligné sa préoccupation quant aux graves outrages infligés à la liberté religieuse que l'on se doit de défendre et de promouvoir. Il réclame ainsi une réaction concertée des pays du monde pour réaffirmer l'intangible dignité de la personne humaine. La personne humaine qui subit les assauts de la crise économique et sociale. Dans un tel contexte, le pape appelle clairement les jeunes à s'engager en politique et les croyants et non-croyants à collaborer ensemble. Objectif, promouvoir une société où les injustices puissent être dépassées et où chaque personne soit accueillie et puisse contribuer au bien commun selon sa propre dignité, ses propres capacités. Quittant le registre universel, le pape François n'hésite pas à donner un conseil aux Italiens qui peuvent et doivent dépasser toute division et grandir dans la justice et la paix, continuant ainsi à jouer leur rôle particulier dans le contexte européen et dans la famille des peuples.
Thomas Chabol. Comme Marie, il faut apprendre à recevoir et protéger la parole de Dieu. C'est ce qu'a affirmé le pape François lors de la messe célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican ce samedi matin, messe à laquelle a participé un groupe de collaborateurs de Caritas Internationalis, accompagné de leur secrétaire général Michel Roy. Le pape a souligné dans son homélie que Marie appréhendait la vie avec la parole de Dieu, ce qui signifie justement la protéger. Stupeur et protection. Le pape François a d'ailleurs basé son homélie sur ces deux termes. La stupeur, c'est plus que de la joie. C'est un moment dans lequel la parole de Dieu est semée dans notre cœur, a expliqué le pape François. Quant à protéger la parole de Dieu, a poursuivi le pape, cela veut dire que notre cœur s'ouvre à cette parole comme la terre s'ouvre aux semences. La parole de Dieu est une graine qui doit être plantée et Jésus nous a dit ce qu'il se passe avec cette semence. Certaines tombent le long du chemin et sont mangées par les oiseaux. Cette parole alors n'est pas protégée, ses cœurs ne savent pas la recevoir. Pour en savoir plus sur cette homélie, une seule adresse évidemment, www.radiovaticana.va. Toujours au Vatican, une dernière nouvelle. Le pape a accepté la renonciation ce samedi de Mgr Grégoire Gabrovan, visiteur apostolique pour les Arméniens résidant en Europe occidentale, et ce, conformément à l'article 210, paragraphe 1 du Code de droit canon. À sa place, le pape a nommé Mgr Jean Thérouse, jusqu'alors évêque de l'éparchie Sainte-Croix de Paris. Le pape, dans son discours au président italien, parlait de la liberté religieuse, liberté sans cesse bafouée et loin d'être appliquée. Les attaques contre la liberté religieuse peuvent passer notamment par des actes de profanation, comme ce fut le cas dans la cathédrale de Nantes, dans l'ouest de la France. Dans la nuit de vendredi à samedi, des personnes se sont introduites par des échafaudages à l'intérieur de l'édifice pour profaner des autels et le sol de l'édifice. C'est ce qu'explique le diocèse de Nantes dans un communiqué qui précise que la France garantit, par la loi, le respect des cultes, des religions et des croyances. La liberté religieuse est aussi notre bien commun. Nous faisons confiance à la justice pour mener l'enquête sur les auteurs et les circonstances de cette profanation. Fin de citation. Une messe de réparation a en tout cas été célébrée samedi après-midi par l'évêque Mgr James avant qu'un rassemblement se tienne sur le parvis de la cathédrale pour dénoncer ces profanations. La paix est un droit dont chaque personne devrait bénéficier et une situation qui rend possible le développement humain intégral. Elle est la condition qui fait que tous les autres droits soient possibles. C'est ce qu'a affirmé Mgr Tomasi, nonce apostolique et représentant permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, et ce lors de la 23e session du Conseil des droits de l'homme. Mais définir la paix par l'absence de la guerre serait la réduire à une valeur négative. Or, souligne le représentant du Saint-Siège, la paix se construit au jour le jour, dans la famille, à l'école et dans la société. La paix, a-t-il rappelé, est un droit dont chaque personne devrait bénéficier et une situation qui rend possible donc le développement humain intégral. Sans fondements économiques, politiques, culturels et spirituels solides, la paix serait un mirage pour des esprits naïfs. Ceux qui veulent la fonder exclusivement sur la force et l'équilibre des forces se trompent. La paix ne s'impose pas par les qualités d'armes amassées, ni par leur sophistication ou leur cruauté, a donc déclaré Mgr Tomasi à la tribune de Genève. Pas question de durcir une nouvelle fois la loi sur l'asile. En Suisse, les églises chrétiennes appellent sans ambiguïté à voter non à la votation de dimanche portant sur le durcissement de la loi sur l'asile. Les parlementaires avaient adopté en urgence de nouvelles mesures encore plus sévères à l'encontre des demandeurs d'asile à l'automne dernier, ce qui va à l'encontre de l'évangile et du respect de la personne humaine selon notamment les évêques catholiques. Parmi les mesures controversées combattues par les églises figure la suppression de la possibilité de déposer une demande d'asile dans une ambassade suisse. Davantage de réfugiés seront alors poussés à recourir à des bandes de passeurs. Pour les persécutés pauvres, cette ultime possibilité de fuite est impossible, précise un communiqué. L'issue de la votation du 9 juin ne fait cependant guère de doute, même pour ceux qui se mobilisent contre le texte. Mais les églises tiennent toutefois à réaffirmer leur position. L'abbé Nicolas Bétichet, il est porte-parole de la conférence des évêques suisses.
Disposition légale qui sera soumise au scrutin populaire le 9 juin prochain est la 10e révision. Donc cette révision fait l'objet de multiples débats où à chaque fois les églises se sont engagées pour défendre la dignité absolue de la personne humaine. Et il est évident que dans ce durcissement qui est préconisé maintenant, il y a effectivement différents éléments constitutifs de cette loi qui sont tout simplement contre l'évangile et contre la personne humaine dans ce qu'elle a de plus digne.
C'est la 10e fois que la loi sur l'asile est modifiée depuis la première votée en 1981. À chaque fois, les Suisses ont accepté le durcissement des conditions pour l'obtention de l'asile. Les églises, pourquoi sont-elles autant à contre-courant du restant de la société suisse? Comment vous expliquez cette césure entre la majorité des Suisses qui s'expriment à l'occasion de ces votations et vos positions à vous, les chrétiens?
Ce qui prévaut malheureusement trop souvent chez nous, c'est l'intelligence de la peur et non pas l'intelligence du cœur. Et c'est peut-être là qu'il faut trouver la réponse. On a parfois l'impression que la présomption de culpabilité prévaut au lieu de la présomption d'innocence. Une personne étrangère, qu'elle soit tout à fait légalement chez nous, fait souvent l'objet tout simplement d'une approche négative parce que, effectivement, comme dans notre pays, la peur s'installe et la peur n'est jamais bonne conseillère. La peur peut évidemment conduire à enfler des chiffres, des statistiques et laisser croire que chaque personne étrangère est une personne qui est forcément en opposition à la loi suisse et à l'état de droit. Donc là, je crois que la peur a conduit à une sorte de rejet d'une manière, je dirais, un peu globale de la personne étrangère. Vous savez que un objet qui sera soumis au Parlement, cette fois suisse, et qui a été proposé par un parti chrétien la semaine dernière, qui ne sera pas soumis au scrutin populaire le 9 juin, mais qui sera soumis plus tard au Parlement, préconise la vérification ADN de personnes ressortissantes de certains pays d'Afrique blanche. C'est encore une nouvelle réalité qui nous inquiète parce que cette fois, on stigmatise des pays d'Afrique blanche en partant du principe que ces personnes-là sont ipso iure et ipso facto des personnes qui constituent un danger pour la sécurité de notre pays. Et cette stigmatisation-là est encore un autre durcissement qui viendra plus tard et que nous ne pouvons que déjà maintenant rejeter.
Un jour, Thierry Bizot a avoué avoir fait une rencontre qui a changé sa vie. Jésus est venu le chercher et il l'a suivi sans hésiter. Dès lors, Thierry Bizot ne cesse de témoigner de sa foi et commence à tenir un blog sur le site croire.com. Jour après jour, il livre les hauts et les bas, les déceptions et les émerveillements de cette nouvelle vie. Interrogé par Catherine Aubin, Thierry Bizot nous explique ce qu'est un apprenti chrétien. Pour lui, avoir la foi, c'est être amoureux. C'est aussi avoir comme meilleur ami Jésus. Chacun, nouveau croyant ou pas, pourra se retrouver dans ce partage émouvant et simple.
Thierry Bizot, le titre de votre avant-dernier livre, Premier pas d'un apprenti chrétien. C'est quoi un apprenti chrétien? Vous en parlez dans votre livre, vous dites débutant, incompétent. Dites-nous, c'est quoi un apprenti chrétien?
C'est déjà un chrétien qui commence. Moi, il se trouve que même si j'ai été baptisé et que j'ai été à la messe tous les dimanches de mon enfance jusqu'à l'âge de 18 ans, après, j'ai décidé de ne plus y aller. Donc, je suis sorti de l'église et j'ai retrouvé le chemin de l'église à l'âge de 45 ans, donc il y a 6 ans, un peu par hasard, en faisant une catéchèse pour adultes et en faisant une rencontre très délicate, très progressive avec Jésus qui a changé ma vie et qui a fait que maintenant, je suis heureux de retourner à la messe et d'être rentré dans le club, on va dire. Donc, j'ai beau avoir 51 ans, je suis un apprenti chrétien. Je dis toujours, j'ai 6 ans d'âge mental spirituel. J'ai la joie de découvrir, comme un enfant, tous les cadeaux, tous les dons, toutes les petites découvertes que je fais en cheminant derrière Jésus chaque jour. Donc, je suis un débutant et donc un apprenti. Et un apprenti, c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui est en chemin, qui va d'un endroit à un autre, qui va s'améliorer. Moi, j'ai vraiment l'impression, depuis que j'ai rencontré Jésus, que je suis derrière lui, je fais des tout petits pas minuscules, parce que malheureusement, je suis un trouillard, je suis un infidèle. Au lieu de marcher au pas de course, je marche doucement, mais j'ai découvert récemment une chose extraordinaire de la part de Dieu, c'est qu'il est extrêmement patient, lui. D'abord, il a attendu que j'ai 45 ans pour... Peut-être que j'étais pas prêt avant. Et maintenant, il est encore assez patient pour attendre ma lenteur, mes hésitations, mes errements, mes pertes de temps.
Justement, dans cette relation avec Jésus dont vous nous faites part dans votre livre, vous dites « Avoir la foi, c'est comme être amoureux. Et je suis amoureux de Jésus et cela me rend heureux. »
En fait, ma grande découverte que j'ai faite à l'âge de 45 ans, en faisant cette rencontre personnelle avec Jésus, c'est que moi j'avais compris que avoir la foi, c'était le fruit d'un travail cérébral et intellectuel. Moi, c'est ça que j'avais compris. Donc, c'était un truc réservé aux vieux, ou alors aux philosophes, aux prêtres, aux professionnels, aux saints, des gens un peu particuliers dont je ne faisais pas partie. Et c'était donc un espèce d'examen de passage très compliqué. Il faudrait peut-être, c'était même pas sûr, avoir la foi. Et une fois qu'on avait la foi, ça servait à mourir. C'est-à-dire, c'était un passeport, un visa pour l'au-delà. Et j'ai compris tout d'un coup à 45 ans que c'était pas du tout ça. Que d'avoir la foi, c'était comme de tomber amoureux, c'était une grâce qui nous était donnée, qu'on pouvait être absolument inculte, on pouvait avoir 5 ans ou 115 ans, on pouvait être inculte ou très cultivé, intelligent ou bête, beau ou moche, peu importe, que ça pouvait être comme tout le monde peut tomber amoureux, tout le monde peut avoir la foi, c'est donné instantanément et gratuitement, et que ça ne sert pas à mourir, ça sert à vivre, maintenant. Donc bon, maintenant, je suis dans une relation d'amour, qui se construit jour après jour, de façon imparfaite. Donc je compare, à chaque fois qu'on me demande, parce que les gens sont très intrigués de savoir, mais qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi. Et en même temps, ils en ont très peur. Parce qu'ils ont peur que si un jour ils avaient la foi, Dieu leur demanderait de devenir bonne sœur. Ils ont peur d'être emmenés là où ils veulent pas être. Moi, je leur donne à chaque fois qu'on me pose des questions, je trouve toujours des comparaisons sur qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi avec tous les amours qu'un être humain peut connaître. Être amoureux, tomber amoureux, espèce de folie quand on est amoureux. Mais après, ça peut être aussi le couple durable, l'amour dans un couple qui dure, mais ça peut être aussi le meilleur ami. Jésus, c'est mon meilleur ami. Mais ça peut être aussi l'amour paternel ou l'amour filial. Jésus a un amour paternel pour moi qui suis son fils et moi, je l'aime comme un père. Le meilleur ami, l'amoureux, l'amour de ma vie. C'est tous les amours en un. C'est les meilleures comparaisons, je trouve, qu'on puisse trouver pour décrire ce que c'est que d'avoir la foi. Et donc, moi, c'est une rencontre personnelle que j'ai faite avec Jésus. Jésus, j'ai l'impression que Jésus est dans ma vie. Le soir, quand je m'endors, je m'endors dans ses bras. Toutes les comparaisons sont bonnes. Moi, il m'arrive d'avoir, quand je pense à Jésus, parfois j'y pense comme ça, comme je pourrais penser à ma femme, sans avoir forcément une émotion énorme. Et de temps en temps, je sais pas pourquoi, je pense à ma femme ou je pense à Jésus, j'ai une bouffée de tendresse et d'émotion. C'est donc une relation amoureuse.
Thierry Bizot, auteur de Premier pas d'un apprenti chrétien, il était l'invité de Catherine Aubin. C'est l'heure maintenant de retrouver le commentaire de l'Évangile. Commentaire de l'Évangile du Père Pascal Montavis, Évangile selon Saint Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Jésus rend la vie au fils de la veuve de Naïm.
L'Évangile de ce jour raconte la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Alors que Jésus, accompagné de ses disciples, s'apprête à entrer dans la ville, il croise une procession funéraire. Jésus prononce alors des paroles et pose des actes qui révèlent le sens profond de sa venue parmi les hommes. Tout d'abord, Jésus est saisi de pitié. Il est pris de compassion devant la souffrance de cette veuve qui pleure son enfant unique. Cette même compassion, Jésus l'avait déjà éprouvée devant les foules qui accouraient à lui et qui étaient comme des brebis sans berger. Il disait alors « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Ces situations renvoient aussi à Dieu qui regarde son peuple, esclave en Égypte, et qui s'exclame « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. » Le Seigneur est donc attentif à nos cris, nos désespoirs. Il est venu pour nous soulager du fardeau qui pèse sur nos épaules. La première affirmation de l'Évangile de ce jour parle donc de l'amour de Dieu pour les hommes. Lorsque le deuil nous touche, il nous arrive parfois de nous demander où est Dieu. La réponse est simple. Le Seigneur est là, auprès de nous. Il marche avec nous et il nous dit « Ne pleure pas ». Ensuite, Jésus s'avance et il touche la civière. Dans le judaïsme, un cadavre est impur. Celui qui le touche devient lui aussi impur. Mais devant la foule qui le regarde, Jésus n'hésite pas à toucher la civière du fils décédé. De la même manière, Jésus avait touché le lépreux qu'il avait supplié en s'agenouillant. « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Là encore, Jésus, pris de compassion, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Dans la Bible, la lèpre symbolise le péché. Jésus est bien celui, comme le dit le prophète Isaïe, qui fait retomber sur lui nos fautes à tous. Dans le même sens, saint Paul dira que celui qui n'avait pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. La compassion de Jésus se transforme donc en salut pour tous les hommes. Jésus nous touche afin de nous laver de nos fautes et de nous donner sa pureté. Le fruit de cet acte d'amour de Dieu est la vie, ou plutôt la résurrection, comme pour le fils de la veuve de Naïm. Cet évangile nous invite donc à nous laisser toucher par le Christ afin que nous revenions à la vie. La miséricorde de Dieu est infinie. Pour la recevoir, il nous suffit de nous laisser toucher, c'est-à-dire de reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés. Enfin, deux précisions, plus ou moins inattendues, terminent ce récit. Au commandement de Jésus, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi », celui-ci se redresse, s'assit, puis se met à parler. Puis Jésus rend l'enfant ressuscité à sa mère. Pourquoi dire que l'enfant parle ? Et pourquoi préciser qu'il le rend à sa mère ? L'œuvre de résurrection de Jésus est une œuvre complète. Elle préfigure le royaume céleste. L'enfant mort est ressuscité par le Verbe fait chair. L'enfant qui revient à la vie peut parler et témoigner des merveilles de Dieu. La veuve, elle, retrouve son fils unique, le seul bien qui lui restait. L'évangile se conclut par « Dieu a visité son peuple ». Aujourd'hui encore, Dieu visite son peuple. Il nous attend chaque dimanche pour recevoir son corps et nous faire participer à sa résurrection.
C'est ainsi que prend fin ce magazine. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que notre page Facebook Radio Vatican en français. En attendant, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.